Fabienne Saintès, le 18-20.
Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four. Jean-Marc, la première semaine de la COP26, on en parlait à l'instant, à Glasgow, a été marquée par une salve d'annonces spectaculaire, donc, mais la seconde semaine démarre sous des auspices nettement plus défavorables. C'est l'Australie qui a donné le ton et ça ne vous rend pas optimiste, c'est votre Monde d'après.
Oui, en langage trivial, ça peut se traduire par « on n'en a rien à péter ». Voilà à peu près le message envoyé ce matin par le gouvernement australien. Concrètement, l'Australie annonce qu'elle va continuer à vendre du charbon, je cite, « pendant des décennies ». Autrement dit, les engagement d'une quarantaine de pays à sortir du charbon, c'est pas notre problème. La lutte contre le réchauffement climatique attendra. Le charbon, c'est pourtant l'énergie fossile polluante par excellence et surtout l'Australie, on le sait, est aux premières loges pour constater les effets du réchauffement, feux de forêt, cyclones, inondations. Mais le gouvernement conservateur de Scott Morrison reste sourd et aveugle. Il avance trois arguments pour justifier sa décision et seul le premier est recevable. Entre 150 000 et 300 000 emplois dépendent de cette industrie en Australie. Les deux autres arguments sont assez fallacieux. L'Australie explique d'abord qu'elle produit du charbon, je cite, de haute qualité, mais bon, il pollue quand même. Elle ajoute ensuite que si elle renonce à exporter son charbon, d'autres, la Russie par exemple, le feront à sa place parce que la demande mondiale continue d'augmenter, mais bon, à ce compte-là, on n'avancera jamais. Le souci, c'est que l'Australie n'est pas un cas isolé. La Russie, on le disait à l'instant, la Chine, l'Inde, même les États-Unis n'ont toujours pas pris d'engagement précis sur une date de sortie du charbon. Bref, on n'est pas rendu.
Donc ça veut dire aussi, Jean-Marc, que les grands groupes pétroliers et miniers aussi, d'ailleurs, continuent d'avoir de l'influence.
Oui, et pas qu'un peu. Il y a un indice très révélateur, c'est la composition des délégations présentes à la COP26. Elle a été décortiquée par l'ONG Global Witness, analyse relayée aujourd'hui par nos confrères de la BBC. Devinez quelle est en fait la plus grosse délégation, celle des lobbyistes et des industries fossiles. Ils sont plus de 500 à Glasgow. C'est deux fois plus, par exemple, que la délégation britannique, qui est pourtant hôte de la conférence. Alors évidemment, ils n'avancent pas à visage découvert sous une seule bannière. Non, ils sont disséminés, et j'allais dire dissimulés, dans les délégations nationales, celles de la Russie ou du Canada par exemple, ou regroupés dans des associations comme l'IETA, International Emissions Trading Association, qui représente les intérêts des grosses multinationales pétrolières. L'ONG Global Witness compare cette situation à celle qu'a connue l'Organisation Mondiale de la Santé pendant de longues années, lorsque l'industrie du tabac était invitée aux discussions sur les effets cancérigènes de la nicotine. L'industrie pétrolière répond qu'elle envoie à la COP des ingénieurs experts qui viennent là pour réfléchir à des solutions d'avenir moins polluantes. On aimerait bien y croire, mais on a un peu de mal quand même vu le nombre des lobbyistes, répétons-le, plus de 500, et vu comment surtout les multinationales des énergies fossiles ont freiné la lutte contre le réchauffement depuis 40 ans.
Alors quand même, Jean-Marc, et on l'a un peu souligné tout à l'heure, il y a eu une avalanche d'annonces encourageantes en fin de semaine.
Oui, oui, c'est vrai. La plus significative, on le disait, c'est donc celle de ces 40 pays décidés à sortir du charbon d'ici 2030 ou 2040, avec des noms encore inespérés il y a quelques mois, le Canada, l'Ukraine, même la Pologne, pourtant très tributaire du charbon et d'un charbon souvent très polluant. Retenons aussi cette annonce de l'Inde qui entend désormais viser la neutralité carbone à l'horizon 2070. C'est la première fois que New Delhi entre dans ce type de raisonnement, même si c'est un horizon qui reste pour l'instant très lointain. Donc tout ça va dans le bon sens, mais là aussi je vais faire l'oiseau de mauvaise augure. Ces annonces posent un autre problème. Comme toutes les promesses, elles engagent surtout ceux qui les écoutent. Et pour l'instant, les actes des États ne sont que rarement en concordance avec leurs engagements. La réalité, c'est qu'à court terme, les États, pour la plupart, continuent d'accroître leurs émissions d'énergie fossile. C'est un peu pour continuer dans la comparaison avec le tabac, comme un fumeur qui dirait « j'arrête de fumer » au moment où il s'achète une cartouche de paquet. Les gouvernements prennent donc des engagements qui concerneront leurs successeurs. Pour ne rien arranger, ces engagements souvent reposent sur des innovations technologiques futures qui ne sont pas encore opérationnelles. Bref, comme souvent avec les promesses politiques, elles relèvent du bonimenteur. La COP26 devrait en fait se préoccuper de rendre les États redevables de leurs actes et donc sanctionnables en cas de promesses non tenues. Oui, je sais, je suis naïf.
Voilà, mais c'est comme ça qu'on vous aime, Jean-Marc Four. Merci beaucoup.